Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Si je vous dis que nous sommes jeudi, qu'il est 18h et qu'on va savoir, et oui, vous pensez à Jean Castex. Jean Castex et Olivier Véran pour un nouveau numéro de leur duo sanitaire. Alors ça sent le confinement du week-end pour le Pas-de-Calais. Le vaccin AstraZeneca devrait être autorisé pour les plus de 75 ans. Les pharmacies vont pouvoir vacciner à partir du 15 mars. Ce sont des infos de Benjamin Sportouche. Pour RTL, on va évidemment traiter ces actualités-là dans les deux heures qui viennent, mais il n'y aura pas que ça. À 18h15, Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, sera notre invité d'actualité. Et à 18h30, un autre Philippe, dans un autre style, Philippe Cavrivière, viendra poser son œil rieur et impitoyable sur l'actualité. Voilà pour le sommaire. Bonsoir Aude Vernuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Les autres grands titres de ce jeudi 4 mars, s'il vous plaît.
Les pistes du gouvernement pour freiner l'épidémie, on posera la question dès le début de ce journal. Faut-il rendre la vaccination des soignants obligatoire? La question fait débat. Et puis une fraude massive au code de la route à Toulouse. 800 personnes en ont profité.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Et bien demain, ça va s'améliorer un chouïa.
Exactement, il faudra juste attendre un petit peu parce que le matin, ce sera encore chargé sur la moitié nord avec quelques averses toute la journée entre le Grand Est et la région Rhône-Alpes, même de la neige en montagne. Ce sera plus lumineux sur la moitié sud après dissipation des brouillards. Et les éclaircies vont revenir par l'extrême nord le matin et gagner tout le nord-ouest l'après-midi, le tout sous des températures en baisse de 7 à 10 degrés pour les maximales au nord jusqu'à 17 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
De nouvelles restrictions attendues ce soir pour freiner les variants du coronavirus. Département sous surveillance renforcée, jauge plus stricte dans les commerces, voire confinement le week-end. Conférence de presse en cours en présence du Premier ministre Jean Castex. Il vient de commencer à prendre la parole. Vincent Derosier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez les grandes lignes du discours et on est loin du grand bouclage général.
Oui, le Pas-de-Calais sera bien le seul département supplémentaire à être confiné le week-end et les 20 départements placés en surveillance renforcée vont eux le rester. Quelques départements supplémentaires vont même s'ajouter à la liste. Les jauges des centres commerciaux et des grandes surfaces non alimentaires autorisées à ouvrir vont être réduites, 5000 m² contre 20 000 aujourd'hui. Pas de mise sous cloche donc pour Paris ou Marseille, mais Jean Castex veut des restrictions de circulation. Il annoncera aussi des mesures, par exemple, contre la consommation d'alcool dans les coins très touristiques et peuplés, comme les quais de Seine dans la capitale. Charge au maire et au préfet d'organiser tout ça. Et puis le port du masque, lui, va être étendu dans certaines zones urbaines, là où il n'est toujours pas obligatoire. Enfin, le gouvernement veut que ce week-end soit un tournant dans la campagne de vaccination. Toutes les zones en surveillance renforcée vont donc être livrées en doses supplémentaires. Centres de vaccination, hôpitaux, médecins généralistes. Tout le monde doit être sur le pont pour vacciner massivement les 50 ans et plus avec comorbidité et les 75 ans et plus. Et puis les pharmaciens, eux, pourront vacciner dès le 15 mars. Un dernier mot, il n'y aura pas d'obligation pour le personnel soignant de se faire vacciner. Ce sera pour le moment de l'incitation douce. Olivier Véran va leur envoyer un courrier pour leur demander de prendre leurs responsabilités.
Et à l'instant, Jean Castex qui annonce que la circulation du virus s'est accélérée depuis une quinzaine de jours et que le variant anglais représente maintenant plus de 60% des contaminations.
A priori, donc, ni Paris ni Marseille ne devraient basculer en confinement partiel. Ce sera le cas uniquement du Pas-de-Calais. On continue évidemment de suivre cette conférence de presse en direct sur RTL.
Alors Vincent Derosier, vous l'évoquiez, hein, faut-il rendre la vaccination des soignants obligatoire d'après l'entourage d'Emmanuel Macron? La question est sur la table, Aude, car les chiffres le montrent. Médecins, infirmiers tardent à se protéger contre le coronavirus.
42% d'entre eux seulement sont vaccinés en EHPAD et 30% à l'hôpital. Daniel Guilherme, président de la Fédération des praticiens de santé, se dit favorable, lui, à une obligation.
Je demande la vaccination obligatoire des soignants parce que c'est la seule manière qu'on aura de se sortir en fait, de cette pandémie. Il faut absolument être exemplaire. Il faut qu'on envoie un message fort à la population pour lui faire comprendre que la vaccination est la clé en fait, de sortie de cette pandémie. Et on n'est pas à l'abri en fait, qu'un professionnel non vacciné se voit embêté par des familles qui porteraient en fait, le dossier devant des juridictions compétentes. Dans le juridisme ambiant, on n'est pas à l'abri de ce genre de mesures. Hein.
À l'inverse, rendre la vaccination obligatoire serait contre-productif, selon Thierry Amouroux du Syndicat national des infirmiers, d'autant plus avec le vaccin d'AstraZeneca.
Pour nous, un soignant doit se vacciner contre le Covid. Mais on pense que le rendre obligatoire, ce serait contre-productif. Ce qu'il faut, c'est que les soignants puissent se vacciner avec autre chose que de l'AstraZeneca. Et les soignants se plaignent qu'on ne leur propose que de l'AstraZeneca, qui est des trois vaccins autorisés en France le moins efficace, en particulier contre le variant sud-africain. Donc on ne comprend pas pourquoi on ne nous donne pas les vaccins les plus adaptés pour lutter contre les variants, parce que les soignants sont très exposés.
Thierry Amouroux du Syndicat national des infirmiers au micro de Virginie Garin pour RTL. Alors, Jean Castex a dit hein, ça augmente, mais il n'y a pas de hausse exponentielle de l'épidémie à ce stade. On parlera de tout ça également à 18h35 avec un épidémiologiste. Il s'appelle Philippe Amoyel et il sera avec nous. Loin de ces débats et des conférences de presse du gouvernement, Aude, certains Français ont pris le large direction la Grèce.
On ne parle pas de vacances, Thomas, mais bien de télétravail au bord de la mer. C'est toujours plus sympa que la vue sur le périph. À Amorgos, les hôtels affichent complet. On ne compte plus les Français sur les carnets de réservation. Reportage d'Alexia Kefalas pour RTL.
Oui, sur les plages de l'île d'Amorgos, célèbre pour avoir prêté son décor naturel pour le film Le Grand Bleu, il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre le français. Beaucoup, comme Thierry, ont en effet quitté l'Hexagone pour poser leurs valises dans ce petit coin de paradis, pourtant difficile d'accès.
Quand on avait vu que la situation ne s'améliore pas à Paris, on était tous les deux en télétravail en plus, on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas là-bas ? Alors, on est arrivé, on est ici depuis novembre, on bosse dur le matin, on prend des bains de soleil à midi.
Résultat, difficile de trouver une chambre de libre, comme le confirme Irini Yanakopoulos, propriétaire de l'hôtel Eyali en bord de mer.
Nous avons une vue idéale, des bons petits plats, mais en arrivant, tous demandent si on a le wifi, c'est la condition.
Les hôtels de l'île retrouvent ainsi le sourire après une année 2020 marquée par une chute vertigineuse de l'activité touristique de plus de 74% pour l'ensemble du pays.
Alexia Kefalas, correspondante d'RTL.
Ça fait
en
du
Grèce.
Bien, hein, ce petit bruit de. C'est pas une mauvaise idée, finalement, le travail
le
télétravail en Grèce. On va y penser peut-être pour RTL soir. Vous l'avez sans doute constaté si vous êtes automobiliste, les prix de l'essence à la pompe sont en hausse.
Oui, 1,39€ en moyenne aujourd'hui pour le gazole. C'est simple, il a retrouvé son niveau d'avant-pandémie, Christophe Bourou.
Oui, on est loin, très loin du prix à la pompe en mai dernier, où le gazole affichait 1,16€ seulement le litre et 1,23€ pour l'essence. Alors, première explication, les producteurs de pétrole, l'OPEP et la Russie, ont décidé de baisser leur production de 7 millions de barils par jour. Ceci pour éviter des excédents, donc des baisses de tarifs. La deuxième raison, qui peut sembler plus surprenante, est liée au vaccin pour lutter contre la Covid. Comme l'explique Olivier Gantois, il est le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières.
Ces vagues de vaccination permettent d'éloigner le risque de reconfinement qui lui ferait baisser les prix. Donc ça permet de maintenir la demande et donc les cours. À l'inverse, s'il n'y avait pas de vaccination et si les États devaient massivement reconfiner comme l'an dernier, ça ferait s'écrouler la demande de produits pétroliers et donc ça ferait baisser les prix.
Des prix qui devraient se stabiliser dans les prochaines semaines selon l'UFIP et ainsi mettre fin à cette remontada puisque depuis le début de l'année, à la pompe, l'essence a grimpé de 11 centimes en moyenne et le gazole de 9 centimes.
Les explications de Christophe Bourou pour RTL.
Et une première annonce pour Jean Castex, on l'attendait. Confinement confirmé le week-end pour le Pas-de-Calais. Ça commencera ce week-end. Compte à partir de samedi 8h, les habitants du Pas-de-Calais, donc de fait à partir de demain soir 21h, puisqu'il y a le couvre-feu, le Pas-de-Calais sera confiné. On marque une pause et ensuite on parlera d'une fraude massive au code de la route. Ça se passe à Toulouse.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Aude Vernuccio. On va faire un premier point sur les annonces de Jean Castex parce que ça commence à tomber.
Jean Castex qui continue son point sur la situation sanitaire. Virginie Garin, plusieurs annonces d'ores et déjà.
Oui, alors déjà une confirmation, le Pas-de-Calais sera effectivement confiné à partir de ce week-end, à partir de samedi. Dans les départements sous surveillance, il y en a désormais 23. Il faut ajouter à ceux qui existaient l'Aube, l'Aisne et les Hautes-Alpes. Eh bien, les grandes surfaces non alimentaires de plus de 5000 m² seront fermés. Grandes surfaces dans les zones aussi sous surveillance de 10 000 m² fermés, donc en dehors de ces départements. Et puis le port du masque sera obligatoire dans toutes les zones urbaines de ces départements sous surveillance. Enfin, les accès très fréquentés. Le Premier ministre a fait allusion à ces images qu'on a vues pour le week-end dernier. Eh bien, ces accès seront interdits.
Virginie Garin pour RTL.
Et on va donc à Toulouse à présent avec cette fraude massive au code de la route qui a été découverte par les gendarmes.
Un homme de 24 ans qui surveillait l'examen à Balma en banlieue de la ville rose acceptait des pots de vin en échange. Il fermait les yeux sur des tricheries organisées. Un inspecteur chef des impôts comparaîtra demain devant le tribunal. Au total, cette fraude concerne plus de 800 personnes. Les explications de Patrick Tégéreau.
Eh bien, ce centre d'examen avait un taux de réussite si exceptionnel qu'il a attiré l'attention des enquêteurs. Il était installé dans un centre de contrôle technique de Balma, dans la banlieue toulousaine. Le gérant avait embauché un jeune de ses amis pour assurer la surveillance des examens le week-end. L'homme a d'abord monnayé les réponses à certaines questions et un de ses clients lui a proposé d'industrialiser la fraude. Le surveillant recevait à cet effet 1000 euros par week-end pour fermer les yeux et surtout ne pas contrôler les identités, car les candidats ne venaient pas. Car c'était des complices qui venaient pour passer l'examen avec le code sur les genoux. La magouille a duré plus d'un an. Le surveillant a ainsi empoché près de 50 000 euros. On s'inscrivait de partout en France pour passer l'examen. Les gendarmes estiment que près de 800 personnes ont ainsi obtenu leur code. Ils n'ont plus qu'à le repasser. L'enquête se poursuit désormais pour interpeller commanditaires et complices.
Patrick Tégéreau, à Toulouse pour RTL.
En voiture encore, mais un peu plus vite.
Les 24 heures du Mans reportées à la fin de l'été au lieu des 12 et 13 juin, comme prévu au départ, ce sera les 21 et 22 août. Annonce de l'Automobile Club de l'Ouest qui veut se donner le maximum de chances pour accueillir du public.
On l'attendait, la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
C'est ce qu'on appelle une très très bonne affaire. Dans le Connecticut, un Américain a déniché un petit bol chinois dans une brocante, 35 $. Aujourd'hui, ce même bol est mis aux enchères par Sotheby's entre 300 et 500 000 dollars, Christophe Decroix.
Oui, c'est un petit bol bleu et blanc avec des motifs de fleurs, de lotus, de pivoine, de chrysanthème et de grenade. Un joli bol floral de 15 cm de diamètre qu'un passant a acheté donc 35 $ sans chercher à marchander. On ne connaît pas l'identité de l'acheteur, mais il doit avoir un œil averti, car à peine sorti de la brocante, il a envoyé des photos de son achat à des spécialistes. Ceux-ci ont rapidement reconnu cette technique de porcelaine dite du bol de lotus, tout simplement parce que l'objet ressemble à un bourgeon de lotus avec une couleur bleu cobalt qui ne pouvait, comme vous vous en doutez, Thomas Yode, qui ne pouvait provenir que de la cour de l'empereur Yongle, qui régna. Qui régna, vous nous le rappelez, de 1433 à 1424, c'est bien ça. Et c'est donc un empereur de la dynastie Ming. À cette époque-là, le bol était une véritable œuvre d'art. Résultat, ce n'est plus 35 $, mais 14 000 fois plus qu'il devrait être vendu. Vous me pardonnerez si je vous dis que c'est un vrai coup de bol ?
Oh !
Ah là là, je l'attendais.
Moi, je suis sûr que votre mug RTL a beaucoup de valeur aussi.
On peut aussi dire qu'il a été chiné.
Oui, absolument.
Sinon, alors les 24 heures du Mans sont reportées. Par contre, le festival de la blague sur RTL, non. Quoi,
c'est permanent.
C'est permanent. Christophe Decroix, merci. Et merci à vous, Aude. Dans un instant, restez avec nous, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT et l'invité d'RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il dirige la CGT depuis 2015, Philippe Martinez, est donc l'invité de RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Philippe Martinez.
Bonsoir.
Joli masque à moustache, hein, je note.
C'était
pour
que vous me reconnaissiez, monsieur Soto.
Il n'y a pas de doute, c'est vous. Jean Castex est en train de tenir sa conférence de presse devenue quasiment hebdomadaire. Le gouvernement tient sa ligne qui consiste à éviter le plus possible de reconfinement. Est-ce que cette stratégie vous semble être la bonne, Philippe Martinez ?
Je me mets à la place de certains citoyens qui ne comprennent pas pourquoi, alors que les taux de contamination sont à peu près similaires, on confine le week-end à certains endroits et pas à d'autres. Donc je crois que le gouvernement continue dans les annonces assez incohérentes, en tout cas qui génèrent de la colère et des incompréhensions.
Pourquoi ? Ce serait quoi une annonce cohérente alors selon vous ?
Pourquoi on confine dans le Pas-de-Calais et pas en Île-de-France ou le contraire.
Parce que le taux d'incidence est plus élevé là-bas et que la capacité de réanimation...
J'ai écouté vos informations, je ne sais pas ce que j'ai compris des informations de tout à l'heure. Voilà. Mais c'est valable pour plein de choses. Et ça date, ça dure depuis le mois de mars de l'année dernière, les masques, les vaccins, etc. etc.
La priorité du gouvernement, c'est le télétravail dès que c'est possible. Le télétravail doit être la règle, répète le gouvernement. Vous n'avez toujours pas signé, vous, l'accord sur le télétravail le dernier ?
Non, on n'a pas changé d'avis. Ce n'est pas un accord normatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un accord qui fixe des règles, les mêmes règles pour tout le monde. Et ça pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire que ça renvoie les salariés à leur employeur sur des questions essentielles, en cas de maladie professionnelle, qui est responsable parce qu'on n'a pas les bons équipements, sur la confidentialité des données, si votre matériel à la maison n'est pas équipé d'antivirus, etc., s'il y a des données qui s'échappent, qui est responsable, sur les frais occasionnés par le télétravail. Donc c'est dans chaque entreprise, si vous voulez, c'est plus qu'un accord, c'est des recommandations. Et ça, ça ne peut pas marcher.
Et la vaccination d'entreprise, Philippe Martinez, elle démarre poussivement. Est-ce qu'il faut accélérer sur le sujet, selon vous ?
Ce qui est poussif pour l'instant, c'est le nombre de vaccins disponibles. C'est la première priorité. Et on ne peut que regretter que, par exemple, une entreprise comme Sanofi, qui avait déjà vendu son vaccin aux États-Unis avant qu'il ne soit trouvé, n'ait toujours pas trouvé de vaccin et qui continue à licencier des chercheurs. La vaccination en entreprise, évidemment, nous ne sommes pas contre. Ce n'est pas la priorité pour l'instant. Pour l'instant, c'est les personnes vulnérables. Mais pourquoi pas, à condition que ça soit fait dans le cadre d'un secret médical et par du personnel compétent. Or, vous savez que la médecine du travail est mise à mal. Il y a de moins en moins de médecins du travail, d'infirmiers.
Mais ils sont compétents, les médecins du travail, ou pas aujourd'hui ?
Un médecin, pour faire une vaccination, il me semble. Ouais. Il me semble, une infirmière aussi. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et je pense notamment aux salariés des petites entreprises qui n'ont pas de service médical à proximité. Il ne faut pas que ça occasionne là aussi des incohérences et des incompréhensions.
On parle des médecins, vous citez les infirmières. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, selon vous ?
Ce que j'ai compris là aussi, c'est que pour l'instant, le vaccin qui est mis à disposition des personnels soignants n'est pas le plus efficace. Donc, réglons ce problème. Et après, on parlera de la vaccination. Je pense que c'est ça d'abord le problème, plutôt qu'un refus des soignants de se faire vacciner.
Ils sont efficaces, les vaccins ? Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas efficaces ?
Il y en a qui sont moins efficaces que d'autres. Là aussi, j'ai écouté vos informations. Ouais. Vous voyez, c'est bien de venir à RTL.
Je vous félicite.
On écoute vos informations et il y a des vaccins qui sont moins
efficaces. Ils n'ont pas tous la même efficacité en fonction des publics, mais ils sont tous efficaces. Vous remettez en cause les agréments qui ont été donnés à ces vaccins ?
Les agréments, on les a. Ouais. Tout le monde reconnaît que des vaccins sont moins efficaces que d'autres.
Oui, mais ils ne sont pas inefficaces. Moins efficaces, ça ne veut pas dire inefficaces.
Hein. Ouais. Moins efficaces.
Mais ma question, alors, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ?
Je ne sais pas sur cette question quelle est la position. Ça doit être une position plus scientifique que d'un syndicaliste. Mais je vous répète, le problème, et c'est ce que portent les soignants, c'est l'efficacité, le taux d'efficacité, pour être très précis, de certains vaccins par rapport à d'autres.
Et vous faites allusion à AstraZeneca et les dernières études montrent qu'il est efficace, y compris pour les personnes âgées. Je ne fais que citer ces études. Le monde de la culture est en colère, il est déprimé, Philippe Martinez. Il y avait d'ailleurs une manifestation à l'initiative de la CGT aujourd'hui à Paris. Il y a une lettre ouverte « Déconfinons la culture » qui a été adressée à Emmanuel Macron il y a quelques jours. Vous, cette semaine, on vous a vu porter un masque culture en danger lors d'un de vos déplacements. Vous dites quoi ? Il faut rouvrir les cinémas, le sanitaire ras-le-bol. Quelle est votre position là-dessus ?
La chose, elle est claire. Premièrement, c'est pas dans les lieux de culture que les contaminations ont lieu, puisqu'ils sont fermés depuis presque un an. La deuxième chose, c'est là aussi, il y a des incohérences. Est-ce que vous avez vu les images des centres commerciaux, la masse de gens, pas dans les magasins, mais à l'extérieur, où les gestes barrières ne sont pas respectés, et les gens de culture disent, alors que nous, on a possibilité, dans les lieux de culture, de faire respecter les distances, à travers un siège sur deux, par exemple, de prendre les choses en main à l'entrée, etc., pourquoi il y a une...
Précisément, ce soir, le gouvernement dit on va fermer les centres commerciaux de plus de 10 000 m² dans les zones les moins tendues et de plus de 5 000 m² dans les zones où le virus est le plus présent.
Oui, d'accord, mais il y a quelques semaines, on a fermé les plus de... C'était 20 000 m², je crois. Et la veille, vous avez vu les images, comme moi. Donc, c'est ça les questions que se posent les gens de culture. Et puis, il y a toutes les possibilités de... par exemple, les répétitions, ça se fait plutôt sans public, si je connais un peu. C'est tout ça qui doit être...
Mais donc, vous dites quoi ? Vous dites, on rouvre les cinémas, il faut y aller, il faut rouvrir les théâtres, il faut rouvrir les salles de spectacle ?
Si c'est possible... dans les centres commerciaux, pourquoi ça ne serait pas possible dans les cinémas, dans les théâtres, mais évidemment en respectant les gestes barrières et en prenant toutes les précautions nécessaires.
Dans ce contexte sanitaire qui reste lourd, le gouvernement a décidé de maintenir sa réforme de l'assurance chômage, une réforme assouplie, a dit la ministre du Travail Elisabeth Borne, qui entrera en vigueur progressivement à partir du 1er juillet. Est-ce que c'est pour vous un compromis acceptable ?
Ni pour nous, ni pour personne, vous l'avez noté. C'est quand même assez... plus les ministres, le président de la République parlent de dialogue, de concertation, là vous avez un sujet où tous les syndicats sont contre, tous, y compris un syndicat...
Il y a une tribune commune, effectivement.
Y compris un syndicat patronal, y compris les petits patrons. Et la ministre dit, tant pis, vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Ça devrait faire réfléchir le gouvernement, y compris c'est suffisamment exceptionnel quand tous les syndicats parlent de la même voix pour que ça attire un peu plus l'attention. Et sur le fond, on va dans une situation dramatique en matière d'emploi, on va pénaliser encore plus les chômeurs. Je vous rappelle que c'est plusieurs centaines de milliers de privés d'emploi qui vont voir diminuer leurs droits. Mmh. Est-ce qu'il y a besoin le quoi qu'il en coûte, c'est pour qui ? C'est pour sanctionner les chômeurs et donner plus pour les entreprises, ou c'est pour plus de justice sociale ? C'est ça la question.
Vous trouvez que c'est injuste de maintenir cette réforme aujourd'hui ?
C'est injuste. C'est injuste. Ça va être catastrophique. Catastrophique. Enfin, c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont voir leur revenu, leur faible revenu, diminuer. En gros, on dit on culpabilise les chômeurs. Moi, je ne connais aucune personne qui, dans son orientation à l'école, décide de devenir chômeur professionnel. Enfin, vous en connaissez peut-être, moi je n'en connais aucune. Et donc, on est en train de en gros, on dit aux ceux qui perdent leur boulot, ceux qui n'ont pas de boulot, c'est de votre faute. Oui. C'est scandaleux.
Bruno Le Maire, dans une interview qu'il a accordée à Politico tout à l'heure, dit que cette réforme, elle fait partie des réformes de structure qui vont permettre de rembourser la dette Covid. C'est pour ça qu'il faut la faire, dit-il.
Non. C'est idéologique. Ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement, premièrement, empêche les suppressions d'emplois. Ça devrait être la priorité. Et travail.
Ça veut dire quoi, qu'il interdise les licenciements ? C'est le retour de l'interdiction des licenciements.
Vous savez, je vais vous citer un exemple parisien, le Grand Hôtel à côté de l'Opéra. L'établissement a touché 12 millions d'euros d'aide. Eh bien, le résultat, il supprime plus de 20% de ses effectifs. Vous trouvez ça normal ?
Il y a de l'opportunisme épidémique dans les entreprises ?
Je vous en cite un. Je ne vais pas tous vous les citer, on n'a pas le temps. Je vous en cite un. Voilà.
Il y a aussi des entreprises qui ont des vraies difficultés, par ailleurs.
Je ne dis pas que c'est... Mais je vous cite, et je peux vous en citer beaucoup, beaucoup, des exemples comme ça. 12 millions. 20% de licenciés, 20% des effectifs licenciés. Est-ce que c'est normal ? Donc ça, oui, il faut stopper ce genre de processus et dire on ne licencie pas. Il y a d'autres formes pour maintenir dans l'emploi. Il y a des accords sur l'activité partielle de longue durée. On peut envoyer les salariés en formation parce que quand l'activité va reprendre, qu'est-ce qu'on va dire ? Ah ben on n'a plus les compétences. Ah ben on n'a plus les salariés.
Donc vous dites quoi ? Vous dites plus de licenciement tant que la crise n'est pas terminée, tant qu'il y a les aides, c'est ça ?
Pas conditionnalité des aides, c'est-à-dire à quoi sert l'argent de nos impôts ? Est-ce que ça sert à licencier ou est-ce que ça sert à maintenir l'emploi ? Et puis, on peut travailler sur la réouverture d'entreprises. Nous, on y travaille, on a fait des propositions au gouvernement. Malheureusement, on n'est pas très entendu de ce côté-là.
Vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas content. Vous liez la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO qui font front uni contre cette réforme. Le patron de la CPME, François Asselin, était à votre place il y a deux jours. Lui, il accepte plutôt cette réforme. Il y a des réserves, mais il est moins négatif.
C'est pas ce que dit l'U2P, c'est-à-dire les représentants des très petites entreprises.
Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Une mobilisation commune ? Qu'est-ce qui est prévu derrière ?
On va y réfléchir. En tout cas, on a certainement à travailler des recours juridiques. Ouais. Le Conseil d'État a déjà amputé en partie la première partie de la réforme. Donc on y réfléchit. Et puis, évidemment, on va être aux côtés des privés d'emploi pour que cette réforme ne s'applique pas.
Ça veut dire des mobilisations ? Ça veut dire des grèves ? Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, à la CGT ?
Écoutez, il y a des mobilisations sur ce sujet, sur d'autres, pour empêcher des fermetures de sites, pour empêcher des licenciements. Il y a des mobilisations, sachant que les mobilisations dans cette période sont plus compliquées parce que tout le monde pense à sa santé. Et vous le comprenez.
En revanche, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, semble avoir enterré la réforme des retraites cette semaine. C'est une réforme nécessaire, mais elle doit se faire dans le dialogue social. Pour cela, il faut que le contexte ait évolué, a-t-elle dit. Est-ce qu'à vous, on vous l'a dit clairement que la réforme des retraites, ce n'était pas pour ce quinquennat ?
Non, puis vous savez bien qu'au gouvernement, les voix sont discordantes. Bruno Le Maire ne dit pas tout à fait la même chose qu'Elisabeth Borne. En tout cas, là aussi, tous les syndicats sont unanimes pour dire c'est pas le moment de faire ça. Il y a d'autres priorités. Moi, j'insiste là-dessus. Il y a d'autres priorités et d'autres urgences économiques et sociales pour la France que de réformer, de faire ce genre de réforme.
Elisabeth Borne qui s'est également dit inquiète du Front Républicain en cas de nouveau duel Macron-Le Pen l'année prochaine. C'est un sujet qui tourne beaucoup en ce moment. Si cela devait arriver, quelle serait la position de la CGT, Philippe Martinez ?
Okay, on n'est pas en 2022. Nous, ce que nous avons dit, rappelez-vous...
Ça s'appelle éviter une question.
Non, parce que si vous me laissez répondre, vous verrez que j'ai réponse à votre question. Qu'est-ce que nous avons dit après l'élection d'Emmanuel Macron ? Nous avons dit il faut qu'il soit humble. Parce que les 66% qu'il a obtenu, ce n'est pas une adhésion totale à son programme. Et nous avons dit, attention, s'il n'écoute pas les citoyens, C'était la deuxième fois que le Front National est au deuxième 2002. Tour. Attention à la troisième. Et donc, il faut d'abord faire des réformes économiques et sociales pour plus de justice sociale. Et vous verrez que la question ne se posera pas du Front National au deuxième tour.
Mais donc là, si elle se pose, le Front Républicain ne sera pas automatique du côté de la CGT.
Moi, je ne fais pas de la politique fiction. Moi, je suis dans le concret et je vous dis, prenons les mesures économiques et sociales qu'il faut, combattons la misère et la pauvreté, créons des emplois et vous verrez que cette question ne sera plus d'actualité le moment venu.
Merci Philippe Martinez d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci à vous. Dans un instant, c'est Philippe qui il s'habille en rouge. C'est peut-être un hommage qui vous rend.
CGT, pas RTL. C'est un hommage. Il s'appelle Philippe.
Ah oui, c'est deux Philippe, dis donc. Deux pour le prix d'un.
Je suis pas militant, mais je suis sympathisant. Voilà. En plus, j'ai un petit problème avec mon employeur. Enfin, je vous en parlerai.
Je vous attends à la sortie.
Ouais, parce qu'en fait, alors, je vous explique, si j'ai que deux chroniques de 6 minutes et sous prétexte que je travaille que 12 minutes par semaine, ils ne veulent pas me payer 35 heures. Donc,
mais vous savez qu'on est pour la réduction du temps de travail, nous. Vous êtes un bon exemple.
Si on réduit, il ne va plus me rester grand-chose. Bon, je ne sais pas si je vais les coller au prud'homme pour ça, mais bon, on en parlera hors antenne.
On va en parler, puis on aura surtout l'occasion de parler hors antenne bientôt, j'ai l'impression. On commence avec Jean Castex, il vient donc de parler, lui, à 18h.
Oui, alors on reviendra sur cet acharnement de Jean Castex à vouloir pourrir ma chronique du jeudi en parlant exprès à 18h. En plus, ça fait 24h que BFM nous avait annoncé le confinement dans le Pas-de-Calais. Donc déjà que ce n'est pas intéressant, Jean Castex, à écouter. Si en plus, il nous spoil 24h avant,
ouais, c'est dur. Ça
vous,
allez, dur.
Vous voyez ce que je veux dire.
Vous savez qu'il est même pas sur les affiches de pub, hein, Philippe Cavrivière.
Ça, oui, faudra qu'on en reparle aussi. Hein.
Bon, un petit peu de pub, le temps d'échanger vos numéros de téléphone, et puis on vous retrouve pour le rappel des titres.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et le point sur les annonces de Jean Castex ce soir, Aude.
Pas de hausse exponentielle de l'épidémie, mais une progression des variants. Nouvelle conférence de presse du Premier ministre sur la situation sanitaire. Le variant britannique représente désormais 60% des contaminations. Virginie Garin, quelles sont les nouvelles mesures annoncées?
Alors, 23 départements sont désormais sous surveillance. L'Aube, l'Aisne et les Hautes-Alpes sont ajoutés à la liste. Dans ces départements, les centres commerciaux non alimentaires supérieurs à 10 000 m² seront fermés. Le port du masque sera obligatoire dehors dans les zones urbaines. L'accès aux lieux très fréquentés sera interdit. Dans le département du Pas-de-Calais, le confinement à partir de ce week-end est confirmé. Et dans ce département, les magasins non alimentaires supérieurs à 5000 m² seront fermés. Et puis, pour les maisons de retraite, le Premier ministre annonce un assouplissement des règles de visite rapidement. Le Premier ministre qui invite solennellement le personnel à se faire vacciner.
Virginie Garin pour RTL a noté que la vaccination en pharmacie va pouvoir démarrer à compter de la semaine du 15 mars. 3,2 millions de Français ont été vaccinés, dont 1,8 million qui ont reçu les deux doses. Objectif du gouvernement, 20 millions d'ici la mi-mai.
La météo, Peggy, demain les températures vont baisser.
Exactement,
et nettement.
Hein, et nettement. On va se couvrir surtout au nord entre 6 et 10 degrés demain après-midi, pas plus, jusqu'à 17 au sud. Côté ciel, encore bien nuageux sur la moitié nord le matin, avec quelques averses toute la journée sur la partie est et même de la neige en montagne. Les éclaircies, elles vont quand même revenir par l'extrême nord et gagner le nord-ouest l'après-midi. Puis sur la moitié sud, du beau temps après dissipation des grisailles et des brouillards.
Merci Peggy. Alors, Philippe Cavrivière, vous avez fini d'échanger avec Philippe Martinez, ça va? Tout est fait, très bien.
Ça va se régler.
Vous passerez la DRH.
Ça va se régler en haut, cette histoire.
Oui, c'est ça, ça va se régler, mon pote. Vous allez réagir à chaud donc à l'intervention de Jean Castex. Comme annoncé, un seul le Nord-Pas-de-Calais est reconfiné à partir de demain soir 18h. L'Île-de-France s'en sort pour l'instant.
Oui, Jeannot s'est exprimé après un nouveau conseil de défense qui a eu lieu hier. Ça marche d'ailleurs pas trop, les conseils de défense. Il faudrait penser à essayer un conseil d'attaque à un moment donné. Ce soir, le Hugolin de Matignon a donc fait sa Laurence Boccolini. Il a éliminé les départements qui sont les maillons faibles. Aude, quel est le département où les gens ont décidé de continuer à mourir du Covid?
Le Nord-Pas-de-Calais.
Correct. Peggy, qui sont les abrutis qui n'ont toujours pas compris les gestes barrières?
Les gens du Nord.
Correct. Victoire, qui sont les crados qui ne se lavent toujours pas les paluches après un an?
Oh non, les ch'tis.
Correct. C'est la fin du vote. Donc, le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible.
Avec 17 bonnes réponses, Peggy est le maillon fort de cette manche. En ne mettant aucun euro dans la banque, Victoire devient le maillon faible. Oh, les votes reflèteront-ils les statistiques?
Le Pas-de-Calais.
Vous êtes le maillon faible. Au revoir.
T'es un malade mental. Oui, et c'est, en tout cas, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour nos amis du Pas-de-Calais, redevenons sérieux ou presque.
Oui.
Il y a quand même une phrase de Gabriel Attal, hein, le porte-parole du gouvernement, qui laisse entrevoir une lueur d'espoir. Il a annoncé le retour à une vie plus normale, peut-être mi-avril.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qu'on appelle aussi The Voice Kids, évoque le retour à une vie normale mi-avril. Après le poisson d'avril, le gouvernement invente donc le poisson de mi-avril. Donc, c'est dans 4 à 6 semaines le retour à la vie normale. Donc, je préviens le gouvernement, tout le monde a compté, ça tombe le 15 avril. On a tous noté retour à la vie normale le jeudi 15 avril. Moi, le jeudi 15 avril, on est tous dehors, hein, je préviens. Ouais. Le jeudi 15 avril, déjà, moi, je viens ici, je serai sous à ce micro, car j'aurais bu toute l'après-midi en terrasse, sans masque. Et derrière, j'enchaîne cinéma, terrasse, théâtre, terrasse, discothèque, terrasse. C'est donc le 15 avril, la libération. Attention, hein, Macron, hein. Parce qu'on a tous 8 ans d'âge mental en ce moment. Hein. Vous venez de nous promettre que Noël, ça tombait le 15 avril, c'est le 15 avril.
Bon, bah vivement le 15 avril.
Il n'y a plus
donc
de négo, là.
Il n'y a plus de négo possible, on l'a bien compris. Je sens que vous vous radicalisez un petit peu. On va parler justice maintenant. Hier, Nicolas Sarkozy a donc accordé une interview aux 20h de TF1. Vous l'avez écouté, bien sûr, parce que vous êtes aussi politologue.
C'est ça.
Vous l'avez trouvé comment, l'ancien président?
Ah ben, j'en parlais avec mon camarade Philou Martinez. On l'a trouvé très bon. Très bon, le salopard. Enfin, en comédien, je parle. Le public de TF1 a dû être conquis. Bon, en même temps, pour eux, le top du jeu d'acteurs, hein, leur Daniel Day-Lewis, c'est Laurent Ournac. Donc, ils sont pas super exigeants non plus, les gens de TF1. Après, sur la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy, j'ai plus envie de citer Isabelle Nanty.
Il y a un très gros problème en défense.
Ah ben oui, Isabelle, il y a un très gros problème en défense. Puis en français aussi, Nicolas. Pour un ancien président, des fois, freestyle. Hein. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Moi, j'aime son énergie. Il est à fond tout le temps. Bon, le problème, quand t'es à fond tout le temps, tu fais des petites sorties de piste à des moments. On écoute.
Est-ce que je parle avec le président de la République actuel? Oui, je lui parle quand il me demande, en me disant qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous n'en pensez pas.
Donc, il est parti en aquaplaning, notre Nicolas. Donc, du coup, Macron appelle parfois Sarkozy pour savoir ce qu'il pense pas. C'est fou, non?
On imagine la conversation.
Parce que c'est rare, nous. C'est rare.
Qu'est-ce que t'en penses pas?
Qu'est-ce que t'en penses pas, toi, de. Ben, moi, rien. Bon, ben, si on raccroche, alors. Nous, c'est rare qu'on appelle des amis pour savoir ce qu'ils en pensent pas sur un sujet. Alors, là où je trouve que Nicolas a raison. C'est sur la malhonnêteté des juges. Quand tu prends un CESO, tu découpes 4500 conversations, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Même des journalistes au-dessus de tout soupçon, tu peux leur faire dire n'importe quoi.
Colette Maz, tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouer toute la nuit.
Il est lourdingue.
C'était Beethoven qui était lourdingue dans son interview, j'ai jamais dit ça à Colette. Sans transition. Bah sans oui. Aucune transition, aucune. Enfin, on va essayer. On va parler de PPDA, qui au même moment, où Nicolas Sarkozy était sur TF1, clamait son innocence sur TMC.
D'ailleurs, j'aimerais m'excuser, car j'ai fait des vannes sur
oui,
PPDA.
C'est pas pareil. Hein.
Et des fans, non, hein, n'importe quoi. En fait, il est innocent. En fait, j'ai appris hier qu'il était innocent. Et bon, du coup, j'aimerais m'excuser pour les vannes sur Sarkozy, parce qu'il l'a dit aussi, il est innocent aussi, Sarkozy. Oui. Et puis, Carlos Ghosn était sur LCI au même moment, vous n'allez pas me croire.
Il est innocent.
Il est innocent, c'est fou. La loi des séries. Ben, bravo les enquêteurs, vous avez foutu 3 innocents en prison. Bon. Ils ont failli faire des bêtises.
Attends. On va se recentrer. On reste, si vous voulez bien, sur PPDA. Je vous sens dispersé là ce soir. Sa défense, où il parle de petits bisous dans le cou, a surpris et même choqué certaines personnes. Ah, il a dit oui, à l'époque, on faisait petits bisous dans le cou. Hein. Ouais. La nouvelle génération trouve essentiel de respecter le consentement.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont prudes, la nouvelle génération. Oh, les coinceaux. Qu'est-ce qu'ils sont chiants avec cette notion de consentement. J'en parlais avec Andréa Bescon. Si on demande le consentement, on a une chance sur deux de se prendre un râteau, je lui disais, Andréa, enfin. Alors que quand tu ne demandes pas à la personne, si Émile Louis avait demandé la permission à chaque fois, avec son physique un peu champêtre, eh ben, il restait puceau toute sa vie. Bon. Voilà, c'est bientôt fini.
Après la grande messe du 20h, on va parler de la messe tout court.
Ouais. Hein,
Père Cavrivière, avec ce chiffre. La commission indépendante sur les abus. Oh, vous voulez vraiment y aller là-dessus?
Oui, bah ouais, elles sont foutues pour
foutues. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église estime que depuis 1950, au moins 10 000 enfants ont été victimes de prêtres pédophiles.
Absolument horrible ce chiffre.
Oui.
Alors, Il doit y avoir des solutions. Je ne sais pas, peut-être des poupées gonflables enfants de cœur à offrir aux séminaristes. Je ne sais pas, je cherche, je propose. En plus, j'ai les vrais chiffres des victimes des prêtres, on est plus sur du 800 000. On est sur du viol auditif. 800 000 victimes ont acheté le disque. Viol auditif avec préméditation. Alors, j'ai envie de terminer par une bonne nouvelle. La relaxe d'Edouard Balladur. Je vous demande de ne pas m'arrêter.
Vous le tenez moins bien que
moi,
Nico.
Moins bien, mais bon, on peut pas, c'est le masque. Donc, pas de financement occulte, pas de valise de billets. Et comme j'ai l'art de l'enchaînement, je vais faire la valise RTL, à la demande de la direction. qui pensera à me mettre sur l'affiche, vous êtes gentil. Je me rêvais des proches, je suis Philippe Risoli. Donc la valise a été gagnée, j'ajoute dans la nouvelle valise le secret d'Ariel. Alors pas de la lessive, hein. C'est l'extrait de parfum par Mauboussin dans la valise aux notes de Jasmin, Rose et Iris. Et je rajoute 140 DVD de Laurent Wernack, l'album des prêtres et le canapé Claire Chazal et son alaise en plastique. Voilà, merci. Bientôt aux grosses têtes. Demain soir, le concert des Enfoirés.
Ah oui.
21h, voilà.
Sur TF1.
Un DVD, un CD, 17 repas offerts.
Vous faites tout le paf.
Je bouffe à tous les râteliers.
Vous annoncez TF1. Vous êtes samedi soir chez Ruquier. Mais qu'est-ce qu'il vous faut d'autre?
Mais je ne sais pas.
Cette boulimie. Petit tour chez Pôle emploi va lui faire le plus grand bien. Allez, merci.
À bientôt, les amis. Ouais, bon poutou.
Il est épidémiologiste et professeur de santé publique. Il vient réagir aux annonces de Jean Castex. Ça devient sérieux. Et nous dire où on est vraiment cette épidémie. Philippe Amouyel est tout de suite l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Il est épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Il est aussi le directeur de la Fondation Alzheimer. Philippe Amouyel est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Philippe Amouyel.
Bonsoir.
Vous avez suivi les premières annonces du Premier ministre Jean Castex. Sa conférence de presse se poursuit. Une première impression générale, est-ce que l'épidémiologiste que vous êtes est rassuré par les mesures qui sont prises? On rappelle globalement, il y a un confinement dans le Pas-de-Calais qui vient s'ajouter à celui qu'on connaît dans une partie des Alpes-Maritimes et dans la région de Dunkerque, que les centres commerciaux de plus de 10 000 m² vont fermer, de plus de 5 000 m² dans ce département du Pas-de-Calais. Il veut des tests massifs, il dit qu'il y aura 30 millions de personnes vaccinées sur les deux tiers de la population de plus de 18 ans d'ici cet été et 20 millions d'ici la mi-mai.
Alors je pense que là, on a une prise d'accélération et de conscience de la course qu'il faut faire actuellement contre la montée des variants et au bénéfice de la vaccination. Il faut mener les deux en parallèle. Mmh. En même temps, à la fois isoler les zones qui sont les plus actives, en particulier le Pas-de-Calais, en particulier la région de Dunkerque. Et surtout, parallèlement à ça, il ne faut pas juste confiner, il faut parallèlement à ça, essayer de réduire le niveau de contamination qu'on connaît actuellement. Mmh. Et en plus, vacciner, vacciner et vacciner. Avec ces outils-là, on a une chance d'éviter les projections que beaucoup d'entre nous, y compris mon équipe, avons faites.
Le mois de mars épouvantable, on peut passer à côté, on peut l'éviter ou pas ?
Le mois de mars va être difficile, mais on peut éviter un mois de mars épouvantable.
Ouais.
C'est-à-dire éviter cette progression. Ce qu'on voit, par exemple, à Dunkerque, ce qu'on voit dans le Pas-de-Calais, c'est ce qui aurait pu se passer au niveau de la France. Là, on a mis en place des mesures, on surveille jour après jour, on s'adapte, on fait des frappes chirurgicales sur les virus, on a une chance de passer ce mois de mars.
Philippe Amouyel, Philippe Martinez, qui était à votre place il y a quelques minutes et qui n'est pas plus épidémiologiste que moi, mais on se poserait la même question, pourquoi confiner le Pas-de-Calais et pas l'Île-de-France, par exemple? Est-ce qu'il y a une cohérence à ça?
Alors, la cohérence, elle peut être fixée à partir des seuils. Si, par exemple, le gouvernement et le conseil scientifique ont fixé des seuils à partir desquels bouger, il faut respecter ces seuils, il y a une certaine logique derrière ça. Après, il y a peut-être d'autres enjeux qui peuvent être économiques. Il faut faire à chaque fois la balance bénéfice-risque dans toutes les situations.
Mais vous, médicalement, est-ce que vous dites qu'il aurait quand même peut-être fallu aller plus loin ou est-ce que vous dites c'est bien?
Je pense qu'on aurait pu, sans aller jusqu'au confinement de week-end, peut-être augmenter un peu le couvre-feu les week-ends, parce que c'est pendant ces week-ends que le virus continue à circuler. On couvre bien la semaine avec ce couvre-feu de 18h qui est très contraignant. Peut-être un petit peu de contrainte, mais pas forcément un confinement, aurait pu être utile, mais c'est un choix.
Vous parlez des seuils. Le seuil d'alerte, c'est 250 cas pour 100 000 habitants. Hein, on est d'accord. Ça fait 0,25 pour 100 habitants. Sachant que sur ces 0,25%, une majorité ne sont pas graves. Est-ce qu'on prend le bon indicateur, là?
Alors, déjà, le calcul de l'incidence est très difficile à faire parce qu'on n'a pas les gens qui sont positifs, mais qui sont asymptomatiques. Mmh. On ne les a pas dans ces études. Donc, en gros, les incidences, il faudrait les
Donc,
doubler.
Ceux qui ne sauront jamais qu'ils ont eu le Covid.
Non, mais qui vont le porter et le distribuer, sans le savoir, les pauvres. Donc, pas prendre toutes les mesures qu'il aurait fallu, et en particulier l'isolement. Donc, ça, c'est un indicateur. Si on prend les indicateurs qui sont les plus fiables, c'est-à-dire hospitalisation, hospitalisation, réanimation, ils sont trop tardifs. Ils apparaissent 4 semaines avant. Donc prendre cet indicateur...
La catastrophe est déjà là. Quand la réa sera pleine, il sera trop tard.
Il sera trop tard et il va falloir quand même absorber la vague. Tandis que là, on a, avec ces chiffres de contamination, une certaine avance par rapport à ces événements-là. Donc l'intérêt à ce moment-là, c'est de savoir à quel seuil on le fixe. Je vous rappelle qu'en septembre, le seuil d'alerte, c'était 50 pour 100 000. Aujourd'hui, on est passé à 250 pour 100 000, alors que le seuil d'urgence était à 150 avant. Donc on est dans des chiffres qui sont extrêmement élevés. Et ce qui serait important maintenant...
Mais c'est très élevé, 0,25%. C'est ça qu'on a du mal à
l'infarctus sentir. Du myocarde, vous considérez que c'est une maladie fréquente ou pas?
Je crois.
C'est 300 pour 100 000 habitants dans les régions les plus peuplées de France, en particulier le nord de la France. Ça vous donne une idée de comparaison par rapport à l'impact de cette épidémie.
D'accord.
Donc ça veut dire que c'est très important. Alors ce qui se passe, c'est qu'on ne meurt pas toujours d'un infarctus, on ne va certainement pas heureusement mourir toujours du Covid, mais il va y avoir beaucoup de gens contaminés. Et beaucoup de gens contaminés, c'est beaucoup de gens qui transmettent, c'est des virus qui se modifient, qui font des variants, et ainsi de suite. Donc il faut baisser cette pression.
Au mois de décembre, vous évoquez le mois de décembre, Emmanuel Macron avait aussi dit qu'on sortirait du confinement à moins de 5 000 contaminations par jour. Aujourd'hui, on est en moyenne à 20-25 000 par jour depuis plusieurs semaines, ça a plus l'air d'être un sujet. Est-ce que c'est un problème, ça?
Alors, c'est un problème pour le virus. Après, c'est un choix. C'est un choix de prendre un certain niveau d'acceptation de la circulation du virus. Mais il faut savoir que 5 000, qui était le chiffre qui était à peu près raisonnable de sortie, n'a pas été tenu. On est sorti à 10 000. Là, on est à 20 000. Ça n'est pas grand monde. Et au contraire, on se dit, tiens, c'est un peu plus de 20 000, un peu moins de 20 000. Donc, on reste sur ce plateau de 20 000 qui est beaucoup trop élevé. Parce que la conséquence, c'est quoi? Ça veut dire que tous les jours, en France, si on compte les asymptomatiques, il y a 40 000 à 50 000 personnes qui se contaminent. 40 000 à 50 000 personnes tous les jours, ça fait un nombre de gens qui vont être infectés important. Et vous savez qu'on ne connaît pas bien ce qui se passe après, même dans les formes modérées. On a ce qu'on appelle les Covid longs. On commence à les découvrir. Est-ce que ce n'est pas simplement le fait du décès qui est important, qui est terrible actuellement, puisque je vous rappelle qu'il y a 2500 personnes par semaine qui décèdent à cause du Covid.
Chaque semaine en France, il y a 2500 morts.
Septembre, c'est quelque chose qui est très important. Donc revenons à ces patients-là. Ces patients-là, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Et puis, ça génère de la résistance qui favorise la prolifération des virus, l'apparition des variants. Donc l'idée, c'est diminuons ce seuil par du dépistage massif, ça permet de dépister. Confinons pour éviter la circulation.
Donc le dépistage massif annoncé pour ce week-end, c'est bien ça.
Il faut
aller se faire dépister, même si on n'a aucun symptôme, machin, il faut y aller.
Exactement. C'est comme on a fait à Noël, c'était fantastique parce que moi j'avais proposé ça pour Noël, donc ça n'a pas été retenu, mais on a exhorté, beaucoup d'épidémiologistes ont exhorté les gens à aller se faire tester avant d'aller au repas de Noël. Moralité, la crainte qu'on avait à propos de ce pic de type Thanksgiving américain, on l'a pas eu en France, et ça c'est une bonne chose.
Philippe Amouyel, les personnels soignants ne sont pas assez vaccinés. Ce sont les mots employés par Jean Castex il y a quelques minutes. Certaines voix commencent à se lever pour dire « rendons la vaccination obligatoire pour les soignants ». Y êtes-vous favorable? Faut-il vacciner, entre guillemets, de force les soignants?
Je ne sais pas si ça doit être obligatoire, mais il doit y avoir une forte injonction des soignants à se vacciner. Quand je dis les soignants, pas que les médecins, toutes les personnes qui vont être en contact de patients atteints de Covid et qui ensuite vont se promener dans les hôpitaux et vont potentiellement disséminés. On appelle ça des infections nosocomiales, infections qui sont dues à...
Celles qu'on attrape à l'hôpital.
Exactement. Voilà. Donc il faut absolument éviter ça, surtout qu'on a des vaccins et qu'on réserve ces vaccins en particulier aux soignants.
Donc est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants?
S'il faut en arriver là, pourquoi pas? On le fait déjà pour l'hépatite B.
Oui, ça existe déjà. Quel est votre degré d'inquiétude? Parce que là, je vous entends et je me dis, mince, j'ai l'impression que les mesures qui sont prises ne sont pas assez fermes, que la situation est quand même plus grave que les mesures qu'on nous annonce.
Alors, je pense que ça évolue de jour en jour. Ce qui est important, c'est que les trois mesures qui ont été annoncées, les trois grands types de mesures qu'on a annoncées, vont dans le bon sens. Maintenant, on ne connaît pas ce virus. Il est source de surprises permanentes depuis qu'il existe. Donc ce qu'on peut espérer, la grande crainte moi, que j'ai, c'est le problème de l'arrivée de ces nouveaux variants, parce qu'ils sont beaucoup plus contagieux, nécessitent un peu plus de responsabilisation des gens pour bien se protéger.
On n'est pas tiré d'affaire.
Alors, on n'est peut-être pas tiré d'affaire, mais quand même, avec le vaccin, on voit le bout du tunnel. Alors la date, je ne sais pas, mais au moins...
La mi-avril, ça vous parle, vous, ou pas? Le fameux 15 avril de Gabriel Attal?
Moi, je ne me prononcerai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si au 15 avril, on a vacciné 20 millions de personnes, ce serait vraiment remarquable.
Merci beaucoup, Philippe Amouyel, d'être venu ce soir en direct dans RTL. Soir, un confinement du week-end dans le Pas-de-Calais aussi. Donc, le congé de fin de semaine, vaste sujet d'inspiration pour Julia Molcou dans la culture de l'actu, tout de suite.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
RTL Soir et la culture de l'actu, toujours aussi réactive à l'actualité avec vous, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On parle donc de ce confinement qui va concerner le Pas-de-Calais, en plus des lieux qu'on connaissait déjà. Alors c'est parti pour le week-end dans la culture de l'actu. va peut-être s'arrêter là, non?
Oui, mais voilà, on a passé Laurie tout de suite, comme ça c'est fait, on est débarrassé. Alors au départ, quand on appelait pas ça week-end d'ailleurs, on avait donné au peuple une journée de repos par semaine pour le culte et la prière. Le vendredi pour le judaïsme et l'islam, le dimanche pour le christianisme. Et savez-vous pourquoi on donna des siècles plus tard une demi-journée supplémentaire?
Parce qu'on était fatigués.
Eh bien, c'est à peu près ça. En fait, on a réalisé, notamment en Angleterre, que ce dimanche chômé, les travailleurs le passaient à danser et surtout à boire. Et que donc, le lundi matin, ils n'étaient plus capables de rien. On ajouta donc à la journée du dimanche, le samedi après-midi, et c'est le début des balles du samedi soir.
Le petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette.
Le mot week-end apparaît dans un texte en français la première fois en 1906, dans Une île inconnue, journal tenu pendant son séjour en Angleterre par l'écrivaine française Pierre de Coulevin. Oui, c'est un nom d'emprunt. Et si au début du XXe siècle... C'est une femme.
D'accord.
Et si au début du XXe siècle, Henry Ford octroie 2 jours pleins à ses salariés avant même le reste du pays, c'est parce que s'il veut que ses travailleurs soient de bons clients, bah, il leur faut du temps libre pour rouler et profiter de leur automobile. Ah. Et l'automobile, eh ben, c'est justement le thème du 15e long métrage de Jean-Luc Godard, Weekend, avec Jean-Yann et Mireille Darc dans les rôles principaux, sorti en 67. Le film raconte l'histoire d'un couple qui passe son week-end en voiture sur les routes de France, en circulant entre les accidents sanglants et les embouteillages épouvantables. Film que Godard lui-même qualifie de plus méchant qu'Arakiri, c'est vous dire. Et il y a un truc complètement dingue avec ces 2 jours, parce que normalement ce sont 2 jours qui sont faits pour se reposer, prendre du bon temps, et pourtant ils ont inspiré des horreurs aux réalisateurs. Prenez par exemple Week-end de terreur.
Voulez-vous vous évader un week-end et vivre une soirée qui vous fera oublier toutes les autres?
Soyez les bienvenus chez moi. Vous verrez jusqu'où vont les gosses de riches pour s'amuser.
Ces jeunes gens de bonne famille...
Alors l'histoire, c'est un week-end entre copains dans une maison isolée sur une île. Et là, les amis qui disparaissent les uns après les autres, c'est franchement, c'est une angoisse terrible. Moi, je préfère encore le confinement.
Ouais, du côté de la chanson, ça donne quoi le week-end?
Alors, nous avons Dave qui nous souhaite un bon week-end et qui se demande quand même si on préfère la Touraine ou la Sologne.
Oh, bon week-end, tu es parti en week-end.
C'est pas sa chanson la plus connue.
Ah, non.
Mais au moins, elle est assez joyeuse. Parce que Julien Clerc, lui, trouve que la campagne en hiver, ça file des ulcères.
Le week-end se parfume. Déjà. À l'eau de rose.
Je vous avais dit qu'il y avait une sacrée ambiance.
Oui, c'est vrai que là, c'est riant.
C'est très, très, très joyeux. Et encore, je vous en ai mis qu'un tout petit extrait. Non, vraiment, du côté de la chanson, rien de très folichon. Heureusement qu'on peut toujours imaginer passer le week-end à Rome.
Week-end à Rome. Tous les 200 personnes.
Ça s'appelle garder le meilleur pour la fin, ça.
Ah bah oui. Mais elle est pas finir avec Laurie.
Non. Grégory Caradoni en régie, tu contrôles ce garçon.
Est-ce
que vous commencez par le temps du week-end, Peggy, rapidement?